Le devisement du monde de Marco Polo, livre 3, chapitre 1. Quelle sorte de navire il y a dans l'Inde? Nous commencerons ce troisième livre, où nous traiterons de l'Inde, par les vaisseaux, jonques, qui y sont en usage. Les plus grands navires dont les Indiens se servent sur mer sont faits ordinairement de bois de sapin. Ils n'ont qu'un pont, que nos matelots appellent « couverture », sur lequel il y a environ 40 loges pour les marchands. Chaque vaisseau a un gouvernail, 4 mâts et autant de voiles. Les planches en sont jointes avec des clous de fer et les fentes en sont bien étoupées. Et parce que la poix ou goudron est rare dans leur pays, ils goudronnent leur vaisseau avec de l'huile d'un certain arbre mêlée avec de la chaux. Les grands vaisseaux peuvent porter 200 hommes qui les conduisent en mer avec des rames. Chaque navire peut, outre cela, porter environ 6000 caisses. Il y a de petites chaloupes attachées à la queue de ces grands vaisseaux et qui servent à la pêche et à jeter les ancres. Chapitre 2. De l'île de Zibangu. L'île de Zibangu, qui est située dans la haute mer, est éloignée du rivage de Manji de 1500 milles. Elle est fort grande. Ses habitants sont blancs et bien faits. Ils sont idolâtres et ont un roi qui est indépendant de tout autre. Il y a dans cette île de l'or en très grande abondance. Mais le roi ne permet que fort difficilement qu'on en transporte hors de l'île. C'est pourquoi aussi, il n'y a guère de marchands qui aillent négocier dans cette île. Le roi a un palais magnifique dont la couverture est de lame d'or pur, de même que chez nous, les grandes maisons le sont de plomb ou de cuivre. Les cours et les chambres sont aussi couvertes de ce précieux métal. On trouve en ce pays-là des perles en abondance, rondes, grosses, et de couleur rouge qui sont bien plus estimées que les blanches. Il y a aussi d'autres pierres précieuses, lesquelles, jointes à la grande quantité d'or qu'il y a dans cette île, la rendent très riche. Chapitre 3. De quelle manière le Grand Khan envoie une armée pour s'emparer de l'île de Zipangu? Le grand roi Kublai, ayant appris que l'île de Zipangu était si riche, songea au moyen de s'en rendre le maître. C'est pourquoi, ayant envoyé deux chefs, dont l'un s'appelait Abatan et l'autre Nonsachum, il leva deux grandes armées pour l'assiéger. Ses généraux, étant partis des ports de Zeyton et de Quincy, avec plusieurs vaisseaux chargés de cavalerie et d'infanterie, mirent à la voile vers l'île de Zipangu et, ayant mis pied à terre, ils ravagèrent le plat pays et détruisirent tous les châteaux qui se trouvèrent à leur encontre. Mais, avant que de subjuguer l'île, il survint entre eux un fâcheux différend touchant la prééminence, ni l'un ni l'autre ne voulant céder le commandement à son compagnon, ce qui causa un obstacle dangereux au succès de leur entreprise. Car ils ne prirent qu'un seul château, lequel étant pris, ceux qui avaient été chargés de le défendre par le roi de Zipangu furent condamnés par le général à être passés par le fil de l'épée. Parmi ces misérables, il s'en trouva 8 qui avaient de certaines pierres attachées à leurs bras, dont l'efficace était telle, sans doute par les enchantements diaboliques, qu'il fut impossible en aucune manière de les blesser, bien moins de les tuer avec le fer, en sorte que l'on résolut de les assommer à coups de levier. Chapitre 4. Les vaisseaux des Tartares se brisent et périssent. Il arriva un jour que, s'étant levée sur mer une furieuse tempête, les vaisseaux des Tartares furent jetés sur les côtes. Sur quoi, les matelots ayant pris conseil, éloignèrent de terre leurs vaisseaux, sur lesquels étaient les deux armées tartares. Mais, la tempête augmentant, plusieurs des navires s'entr'ouvrirent et beaucoup de monde fut submergé. Il y en eut parmi ceux-ci qui se sauvèrent sur des planches et autres débris à une petite île dont ils n'étaient pas fort éloignés et qui est assez près de l'île de Zipangu. Ceux qui échappèrent avec leur vaisseau s'en retournèrent chez eux. On compta jusqu'à 30 000 hommes de ceux qui s'étaient sauvés du naufrage dans cette petite île après que leur vaisseau fut rompu. Et comme ils ne savaient comment faire pour sortir de là, et que l'île, qui était inhabitée, ne pouvait leur fournir des vivres, ils n'attendaient plus que la mort. Chapitre 5. De quelle manière les Tartares évitent le danger présent de la mort et s'en retournent à l'île de Zipangu. La tempête étant apaisée, les habitants de l'île de Zipangu vinrent avec beaucoup de vaisseaux et en grand nombre pour attaquer les Tartares qui étaient sans armes dans cette petite île où ils ne pouvaient recevoir du secours de personne. Ayant donc mis pied à terre et laissé leur vaisseau près du rivage, ils allèrent chercher les Tartares. Mais ceux-ci, usant de prudence, se cachèrent non loin du bord de la mer en attendant que les arrivants fussent un peu loin. Alors, ils sortent de leur retraite, entrent dans les vaisseaux des Ipangriens et se sauvent adroitement du danger en laissant leurs ennemis dans l'île. Et allant de ce pas à l'île de Zipangu avec les pavillons et les enseignes Ipangriens qu'ils avaient trouvés dans les vaisseaux, ils se rendirent dans la principale ville de l'île. Les habitants, voyant les enseignes de leur nation et croyant que c'était leurs gens qui revenaient victorieux, sortirent au-devant d'eux et les introduisirent, sans les savoir leurs ennemis, dans leur ville. Ceux-ci, y étant, les chassèrent tous, excepté quelques femmes. Chapitre 6. De quelle manière les Tartares sont chassés à leur tour de la ville qu'ils avaient surprise. Or, le roi de Zipangu, ayant appris tout ce qui se passait, renvoya d'autres vaisseaux pour délivrer ses gens, qui étaient enfermés, comme nous avons dit, dans la petite île. Il assiégea la ville que les Tartares avaient surprise, et il en fit fermer toutes les avenues avec tant de diligence qu'il ne pouvait sortir ni entrer personne. Car il jugeait très nécessaire que les Tartares assiégés ne puissent pas donner avis de ce qui se passait au grand Khan, leur prince. Autrement, c'eût été fait de son île. Le siège dura 7 mois, au bout desquels les Tartares, voyant qu'il n'y avait pas d'apparence de secours, rendirent la ville au roi de Zipangu et s'en retournèrent sains et saufs chez eux. Cela arriva l'an de notre Seigneur 1289. Chapitre 7. De l'idolâtrie et de la cruauté des habitants de l'île de Zipangu. Les Ipangouins adorent plusieurs idoles différentes, car les unes ont la tête d'un bœuf, d'autres d'un cochon, d'autres d'un chien et enfin d'autres de divers animaux. Ils en ont qui ont 4 faces dans une même tête, d'autres 3, une à l'ordinaire et les 2 autres à côté sur chaque épaule. Il y en a enfin qui ont plusieurs mains, les unes 4, les autres 20 et d'autres jusqu'à 100. Celles qui ont le plus de mains sont estimées plus véritables. Et lorsqu'on demande à ces gens-là d'où ils tiennent cette tradition, ils répondent qu'ils imitent en cela leur père et qu'ils ne doivent point croire autre chose que ce qu'ils ont reçu d'eux. Les Ipangiens ont une autre coutume. Quand ils attrapent quelque étranger, s'il peut se racheter de leurs mains par argent, ils le laissent aller. Mais s'il n'a point d'argent, ils le tuent et le font cuire. Après quoi, ils le mangent avec leurs amis et leurs parents. Chapitre 8. De la mer de Sim. La mer, où sont ces îles, de Zipangu et autres, s'appelle la mer de Sim, ce qui veut dire la mer qui avoisine le Manji. Car, dans leur langage, les habitants de ces îles appellent le Manji du nom de Sim. Or, selon le témoignage des pêcheurs et marins, il y a 7400 îles qui sont presque toutes habitées et qui produisent en grande quantité toutes sortes d'épices et choses précieuses, tant comme produits des arbres et des plantes que comme métaux et pierreries. À vrai dire, la distance de ces îles est grande et les marins de la province de Mangi sont les seuls qui s'y rendent. Ils y vont pendant l'hiver et en reviennent pendant l'été, parce qu'il n'y a que deux sortes de vents qui règnent et qui sont directement opposés. Le vent d'hiver servant pour y aller, et le vent d'été pour en revenir. Chapitre 9. De la province de Siamba. En partant du port de Zeitun et naviguant vers le sud-ouest, on vient à la province de Siamba, qui est éloignée de ce port de 1050 milles. Elle est fort grande et a des moutons en abondance. Les habitants sont idolâtres et ont un langage particulier. Lors de l'incarnation du Fils de Dieu, 1268, le grand Khan envoya un général nommé Sogatou avec une puissante armée pour subjuguer cette province. Mais lorsqu'il fut arrivé dans le pays, il reconnut que les villes y étaient si bien fortifiées et les châteaux si forts qu'il était comme impossible de les prendre. Il brûla cependant toutes les maisons de campagne, coupa les arbres et causa tant de dommages dans cette province que le roi se rendit de lui-même tributaire du grand Khan, afin qu'il fît retirer ce général hors de ses terres. Ils firent un accord, à savoir que le roi de Siamba enverrait tous les ans au grand Khan 20 éléphants des plus beaux. Et moi, Marco, j'ai été dans cette province, dont le roi avait alors une si grande multitude de femmes qu'il avait 326 fils ou filles et dont 150 de ses fils étaient déjà en âge de porter les armes. Il y a beaucoup d'éléphants ce pays-là, et du bois d'aloès en abondance. On y trouve aussi des forêts d'ébène. Chapitre 10. De l'île de Java. Après avoir laissé la province de Siamba, on navigue vers le midi pendant 1500 milles jusqu'à la grande ville nommée Java, qui peut avoir de circuit 3000 milles. Elle a un roi qui n'est tributaire de personne. Il y a du poivre en abondance, des noix muscades et autres aromates. Plusieurs marchands vont là trafiquer car ils gagnent beaucoup sur les marchandises qu'ils en apportent. Les habitants de l'île sont idolâtres et le grand Khan n'a pu jusqu'ici les réduire sous sa domination. Chapitre 11. De la province de Sukat. En naviguant de l'île de Java, on compte 700 milles jusqu'aux îles nommées Sundur et Kondur, par-delà lesquelles, en avançant entre le midi et l'ouest, on compte 50 milles jusqu'à la province de Sukat, Bornéo, qui est très riche et très étendue. Elle a son propre roi et un langage particulier. Les habitants sont idolâtres. L'on nourrit en ce pays-là de très grands ours apprivoisés. Il y a aussi beaucoup d'éléphants et de l'or en quantité. Ils se servent pour monnaie de grains d'or. Il y a peu d'étrangers qui abordent dans cette province parce que les gens y sont trop inhumains. Chapitre 12. De l'île de Pétan. En s'éloignant de la province de Sukat, on navigue l'espace de 500 milles vers le midi jusqu'à l'île de Pétan, Bintang, dans la presqu'île de Malacca, dont le terroir est la plus grande partie en forêt et en bois. Les arbres sont odoriférants et rendent un grand profit. De là, on vient dans le royaume de Malatour, Malacca, où il y a une grande abondance d'aromates. Les habitants y ont une langue particulière. Chapitre 13. De l'île qui est appelée la Petite Java. Par-delà l'île de Pétan, en naviguant vers le vent dit Siroc, on trouve la Petite Java, Sumatra, éloignée de Pétan de 100 milles. On dit qu'elle a de circuit 2000 milles. Cette île est divisée en 8 royaumes et les habitants ont une langue particulière. Elle produit divers parfums qui ne sont point connus en notre pays. Les habitants sont idolâtres. Cette île est si avancée du côté du midi que l'étoile tramontane, l'étoile polaire, n'y peut plus être vue. Moi, Marco, J'ai été dans cette province et j'ai parcouru six de ses royaumes, à savoir celui de Ferlec, celui de Basman, celui de Samara, celui de Dragoyam, celui de Lambri, celui de Fansour. Je n'ai point été dans les deux autres. Chapitre 14. Du royaume de Ferlec. Les habitants de ce royaume, qui occupe les montagnes, ne suivent aucune loi, mais vivent en bête, adorant la première chose qui se rencontre le matin dans leur chemin. Ils mangent la chair des animaux purs et impurs, et même celle des hommes. Ils sont mahométans, ayant appris cette loi des marchands saracéniens qui viennent là. Chapitre 15. Du royaume de Basman. Il y a dans ce royaume une langue particulière, et les habitants vivent en bêtes. Ils reconnaissent les grands khans pour leur seigneur, mais ils ne lui payent aucun tribut, si ce n'est qu'ils lui envoient quelquefois des présents de bêtes sauvages. On trouve là une grande quantité d'éléphants et de licornes, et ces animaux sont un peu plus petits que les éléphants, ayant le poil d'un buffle et le pied comme un éléphant. Ils ont la tête faite comme un éléphant, et ils cherchent aussi bien que les cochons la boue et l'ordure. Ils portent une grosse corne noire au milieu du front. Ils ont la langue rude et ils en blessent souvent les hommes et les animaux. Ce pays abonde aussi en singes de diverses espèces, de grands et de petits, qui sont très semblables aux hommes. Les chasseurs les prennent et les épilent, excepté à l'endroit de la barbe et de certaines autres parties du corps. Et après les avoir tués, ils les assaisonnent de plusieurs herbes odoriférantes. Après cela, ils les font sécher et ils les vendent aux négociants qui les portent en divers endroits de la terre et font à croire que ce sont des petits hommes que l'on trouve dans les îles de la mer. Chapitre 16. Du royaume de Samara. J'ai été, moi Marco, dans le royaume de Samara avec mes compagnons pendant 5 mois. Mais ce ne fut pas sans beaucoup d'ennuis, car nous attendions là que le temps fût propre à naviguer. Les habitants y vivent comme des bêtes, mangent la chair humaine d'un grand appétit. C'est pourquoi, méprisant leur compagnie, nous nous bâtîmes de petites baraques de bois tout près de la mer, où nous nous tenions sur la défensive contre les insultes de cette canaille. On ne voit dans ce royaume-là ni la grande ni la petite ours, constellation polaire boréale, comme les astronomes les appellent, tant cette île est éloignée du septentrion. Les habitants sont idolâtres. Ils ont là de fort bons poissons et en abondance. Mais ils n'y croient point du blé. Ils font du pain de riz. Ils n'ont point de vigne non plus, mais ils tirent une boisson de certains arbres de la manière suivante. Il y a en ce pays-là beaucoup d'arbres qui n'ont que 4 branches, sorte de palmiers, lesquels ils coupent dans une certaine saison de l'année et dont ils sortent une liqueur qu'ils ramassent. Elle coule en si grande abondance que dans un jour et une nuit, ils peuvent remplir du flux d'une seule branche une cruche. Après quoi, ils en emplissent une autre jusqu'à ce que la branche ne coule plus, et c'est là leur vendange. Ils ont un moyen de rendre ce flux plus abondant par les arrosements des eaux qu'ils répandent sur les racines de l'arbre lorsqu'ils pleurent trop lentement. Mais alors, cette liqueur n'est pas si agréable que lorsqu'elle coule naturellement. Ce pays est aussi très abondant en noix d'Inde, coco. Chapitre 17. Du royaume de Dragoyam. Les hommes de ce royaume sont pour la plupart très sauvages. Ils adorent les idoles et ont un langage particulier et un roi. Ils ont une coutume parmi eux qui est que quand quelqu'un est malade, ses amis et ses parents assemblent les magiciens et les enchanteurs pour leur demander si le malade en réchappera. Et ceux-ci répondent ce que les démons leur suggèrent. S'ils disent qu'il n'en réchappera pas, ils ferment la bouche du patient pour lui empêcher la respiration. Et ainsi le font mourir pour qu'il ne meure pas de maladie. Puis, ils dépècent sa chair, la cuisent et la mangent, et ce sont les parents et les meilleurs amis qui font cette horrible action. Ils disent pour leur raison que si sa chair pourrissait, elle serait convertie en vers et que ces vers, enfin, ne trouvant plus à se repaître sur son cadavre, mourraient à la fin de faim, de quoi l'âme du défunt souffrirait de grandes peines en l'autre monde. Ils enterrent les os dans les cavernes des montagnes, de peur qu'ils ne soient foulés aux pieds des hommes et des animaux. Et lorsqu'ils prennent un homme d'un pays étranger, s'il ne peut pas racheter sa vie avec de l'argent, ils le tuent et le mangent. Chapitre 18. Du royaume de Lambri. Il y a encore un autre royaume, dans la susdite île, nommé Lambri, où il croît des arbres de Brésil en grande quantité. Lorsqu'ils ont poussé, on les transplante et les laisse 3 ans en terre. Après quoi, on les déracine de nouveau. Moi, Marco, j'ai apporté des graines de ces arbres avec moi en Italie, et je les ai fait semer. Mais ils n'ont point poussé, faute de chaleur suffisante. Les habitants de ce pays-là sont idolâtres. On trouve quelques hommes qui ont une queue comme un chien de la longueur d'une paume. Mais ils se retirent dans les montagnes. Il y a aussi des licornes et plusieurs autres sortes d'animaux. Chapitre 19. Du royaume de Fansour. Il croit dans le royaume de Fansour d'excellents camphres qui se vendent au poids de l'or. Les habitants font du pain de riz car ils n'ont point de blé. Ils font une boisson de la liqueur des arbres comme nous avons expliqué ci-dessus. Il y a en ce pays-là de certains arbres, dits mori, sagou ou arbre à pain, qui ont l'écorce fine et sous laquelle on trouve une espèce de farine excellente qu'ils apprêtent fort bien. C'est un mets délicat et dont j'ai quelquefois mangé avec délectation. Chapitre 20. De l'île de Nécuram. On compte, par mer, de l'île de Java, 150 milles jusqu'aux îles Nécuram et Anganiam, île Nicobar. Le peuple de l'île de Nécuram vit tout à fait bestialement. Il n'a point de roi. Ils vont tout nus, tant les hommes que les femmes. Ils ont des parcs remplis d'arbres, du sandal, des noix d'Inde et des clous de girofle. Ils ont aussi des brésils en abondance et quantité d'aromates.